Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le mystère Clovis est un récit historique romancé de Philippe de Villiers, consacré à la figure fondatrice du roi franc Clovis. L'ouvrage ne se contente pas de relater une biographie classique, il choisit de faire parler Clovis à la première personne pour restituer son enfance, ses conquêtes, ses relations politiques et surtout le sens de sa conversion au christianisme. Cette posture narrative donne au livre une tonalité à la fois incarnée et interprétative, où l'histoire est relue à travers une voix subjective mais structurée par des repères historiques connus. Le texte s'inscrit dans une réflexion plus large sur les origines de la France, la naissance d'un pouvoir royal durable et la place du christianisme dans la construction symbolique du pays. Il se distingue enfin par les échos qu'il établit entre les bouleversements de l'époque mérovingienne et certaines crises contemporaines, notamment l'émigration, les invasions et les fragilités des civilisations. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, faire revivre Clovis par une narration à la première personne. Le choix le plus distinctif du livre est de faire de Clovis le narrateur de sa propre histoire. Ce procédé transforme une figure historique souvent lointaine en personnage immédiatement présent, avec une parole directe qui permet d'explorer ses motivations, ses émotions et sa perception des événements. Au lieu d'un exposé biographique neutre, Philippe de Villiers construit une voix qui donne une cohérence intime à l'itinéraire du roi. Cela renforce l'immersion du lecteur, mais cela oriente aussi la lecture vers une interprétation. Clovis n'est pas seulement un souverain parmi d'autres. Il devient le témoin conscient d'une époque fondatrice. Cette méthode est efficace parce qu'elle associe lisibilité et dramatisation tout en conservant un socle historique identifiable. Elle permet également de relier les faits politiques à une expérience humaine, ce qui rend compréhensible des réalités anciennes, souvent réduites à des dates ou à de batailles. Deuxièmement, la conquête du royaume de Syagrius comme acte de fondation politique. Le livre insiste sur la montée en puissance de Clovis à travers la conquête du royaume de Syagrius, moment décisif dans la formation du pouvoir franc. Cette séquence n'est pas présentée comme un simple épisode militaire, mais comme l'acte par lequel un jeune roi consolide son autorité, élargit son territoire et amorce une organisation plus stable de sa domination. Le récit met en lumière la logique politique de l'expansion alliance, élimination des rivaux, appropriation du butin et constitution d'une armée durable. En ce sens, la conquête n'est pas seulement une victoire tactique, elle devient un mécanisme de construction étatique. Le livre montre aussi que la fondation d'un royaume passe par la capacité à transformer la guerre en ordre et le pillage en ressources politiques. Cette lecture donne au règne de Clovis une dimension fondatrice qui dépasse la simple chronique des combats et explique pourquoi il occupe une place centrale dans la mémoire historique française. Troisièmement, le baptême de Clovis comme nœud symbolique de l'histoire française. Un des enjeux majeurs du livre est la conversion de Clovis au christianisme et la question de la date exacte de son baptême. Philippe de Villiers traite cet épisode comme un mystère historique, mais aussi comme un événement symbolique décisif. L'intérêt ne réside pas uniquement dans la précision factuelle, mais dans les conséquences culturelles et politiques de ce choix religieux. Le baptême de Clovis est présenté comme un moment où se nouent pouvoir, foi et identité collective, ce qui explique son importance dans les récits des origines de la France. Le livre cherche à rétablir ce qu'il considère comme une vérité historique sur cet épisode, tout en lui redonnant sa portée fondatrice. Cette insistance éclaire la manière dont une décision personnelle du souverain devient un repère de civilisation. Le lecteur est ainsi conduit à voir la conversion non comme une simple péripétie pieuse, mais comme un événement structurant pour l'histoire politique et symbolique du pays. Quatrièmement, le vase de Soissons et les récits légendaires comme outil de mémoire. L'ouvrage accorde une place importante à des épisodes devenus emblématiques, en particulier le vase de Soissons. Ce récit, largement transmis comme une légende historique, fonctionne moins comme un détail anecdotique que comme un révélateur de l'image de Clovis. Il met en scène la tension entre autorité royale, discipline guerrière et justification morale du pouvoir. Philippe de Villiers réactive ce type d'épisode pour montrer comment la mémoire nationale se construit aussi à travers des scènes symboliques ou un fait apparemment simple devient porteur d'une signification durable. L'intérêt de cette approche est qu'elle relie histoire et imaginaire collectif sans les confondre entièrement. Le livre ne cherche pas seulement à raconter ce qui s'est passé, mais à expliquer pourquoi certains récits ont traversé les siècles. Le vase de Soissons sert alors de point d'appui pour comprendre la fabrication d'une figure royale exemplaire, à la fois guerrière, politique et déjà inscrite dans un récit de civilisation. En dernier lieu, un parallèle explicite entre les temps mérovingiens et les crises contemporaines. Le livre ne se limite pas à la reconstitution du passé, il établit des correspondances entre l'époque de Clovis et le monde actuel. Les thèmes des peuples en errance, des invasions, des barbares et des civilisations qui s'affaissent sont mobilisés pour suggérer une lecture comparative de l'histoire. Ce rapprochement donne au récit une portée contemporaine, car il transforme l'évocation mérovingienne en miroir des fragilités présentes. L'idée n'est pas de dire que les deux périodes sont identiques, mais de montrer que certaines tensions récurrentes traversent les civilisations, mouvements despopulation, crise des ordres politiques, incertitude sur la continuité des héritages. Cette dimension fait du livre un ouvrage à la fois historique et interprétatif, qui cherche à tirer du passé une leçon sur le présent. Elle explique aussi son positionnement singulier dans le paysage des livres sur Clovis. Il s'agit moins d'une synthèse académique que d'un récit engagé, conçu pour faire résonner une fondation ancienne avec les inquiétudes du temps présent. En conclusion, le mystère Clovis s'adresse d'abord aux lecteurs intéressés par l'histoire de France, les origines mérovingiennes et les grandes figures de la fondation nationale. Il conviendra aussi à ceux qui recherchent un livre historique accessible, porté par une narration vivante plutôt que par une démonstration universitaire. Son intérêt intellectuel tient à sa capacité à relier des faits connus, comme la conquête du royaume de Syagrius ou le baptême de Clovis, à une interprétation plus large sur l'identité française et la continuité des civilisations. Le livre peut ainsi servir de porte d'entrée vers une période souvent mal connue, tout en proposant une lecture engagée du passé. Ce qui le distingue d'autres ouvrages sur Clovis est sa forme la première personne, la dramatisation du récit et la volonté de faire résonner l'histoire ancienne avec les crises contemporaines. Il ne cherche pas seulement à informer, mais à faire percevoir la charge symbolique d'un roi fondateur. Cette combinaison d'évocation, de mémoire et de réflexion historique le rend singulier dans son genre. Si vous souhaitez soutenir Philippe de Villiers, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !